Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un nouvel épisode du podcast de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui nous recevons Mégane Bédard. Bonjour Mégane, bienvenue à l'émission.
Salut, merci de l'invitation.
Alors, tu es doctorante en études sémiotiques à l'UQAM et chercheuse spécialisée en études sur la culture populaire. Tu participes à des podcasts comme Pop en stock, Les Amazones et tu viens de faire paraître un livre aux éditions de ta mère qui s'intitule Xenomorph. Alien ou les mutations d'une franchise qui traite, c'est quand même assez évident juste à entendre le titre, de la franchise Alien qui est lancée en 1979 avec le film du même nom signé Ridley Scott. Et puis, c'est de ce livre-là qu'on va parler aujourd'hui à l'émission parce que premièrement, ton livre est très intéressant. Puis aussi, ça tombait bien, je venais de réécouter les quatre Alien pendant le confinement, puis je me disais, ça me tente de parler d'Alien. Puis là, ton livre arrive comme ça, puis je suis comme, on va profiter de cette occasion-là. Et puis, on va parler de cette franchise légendaire. J'imagine qu'on n'écrit pas un livre comme Xenomorph sans d'emblée être une fan de la série Alien. Tu te souviens-tu de ton premier contact avec Alien, de ce qui a fait qu'il y a eu un déclic, puis qu'au final, tu as développé une passion comme celle-là pour la franchise?
C'est une question, ça a l'air d'une question simple, mais c'est un peu un parcours étrange qui m'a amené jusqu'à Alien parce que j'étais pas née en 1979 quand le film est sorti, ni quand à peu près, quand les deux premiers sont sortis. Je suis née en 92, fait que j'ai découvert Alien sur le tard. Réellement, si on est honnête, mon premier contact avec la franchise Alien, c'est dans les parodies, si on veut, avec Spaceballs et dans Shrek aussi, parce qu'il y a comme une référence au...
Ouais, moi aussi, je pense que mon premier contact avec Alien, c'est Spaceballs.
Oui, c'est ça. Je savais comme intuitivement que cet univers-là existait. J'avais jamais vu les films parce que j'avais peur des films d'horreur quand j'étais jeune. Puis je suis rentrée dans la franchise réellement sans m'en rendre compte parce que quand j'étais jeune, j'habitais chez mes parents, comme beaucoup de gens. Puis on avait super écran. Puis j'avais mis le film Prometheus sans vraiment savoir que ça appartenait à la franchise Alien parce que j'étais pas trop au courant dans ce temps-là parce que ça venait juste de sortir. Puis rendu à la fin du film, là, j'ai réalisé que c'est un film d'Alien. Puis après, je suis allée toutes les réécouter un peu dans le désordre. Fait que je suis rentrée par le...
Vraiment sur le tard.
Vraiment,
est-ce
qu'il y a le pire film?
Ouais. C'est discutable, le pire film, mais en tout cas, peut-être pas la meilleure introduction, effectivement.
Non, mais c'est l'introduction peut-être la plus étrange à ça. Puis, parallèlement, j'ai toujours été une fan de science-fiction. Puis, je voulais faire mon mémoire de maîtrise parce que le livre est comme une réécriture slash prolongement de mon mémoire de maîtrise que j'ai faite sur la franchise Alien. Puis, pour mon mémoire de maîtrise, je voulais parler d'extraterrestres dans la fiction. J'ai toujours été fascinée par les extraterrestres en général. Puis, à un moment donné, je suis tombée sur l'article que je mentionne quand même souvent dans mon livre de Karen Leto qui est sur la franchise Alien et sur la narration transmédiatique. Et là, j'ai comme eu un déclic. C'est comme une espèce de rencontre fan à la fois avec la franchise, mais aussi avec la théorie qui venait avec. Là, on dirait qu'il y avait comme une espèce de dimension intellectuelle à ça qui est venue me happer par l'intermédiaire justement de l'article en question. Là.
OK, fait que t'as pas l'espèce de parcours classique de la fan finie d'une franchise qui essaye de justifier son obsession pour cette franchise-là en développant une théorie autour. C'est comme quasiment le contraire.
Dans ce cas-là, oui. Dans d'autres cas, c'est pas le seul univers de fiction que j'ai voulu étudier dans mes recherches. Fait que c'est arrivé que je suis une fan de Doctor Who, puis je voulais faire des présentations puis des travaux sur Doctor Who. Fait que j'ai fait ce parcours-là, mais pour Alien, c'est très différent parce que je connaissais, mais j'étais pas encore fan. Je suis devenue un peu à force de me confronter à ça puis d'y réfléchir.
Ah oui, c'est vraiment, vraiment étrange pour moi d'entendre parler de quelqu'un qui découvre Alien avec Prometheus, c'est clair. tout ton long du livre, on sent qu'il y a une volonté de ta part d'assumer une certaine subjectivité dans ton traitement du sujet. T'écris notamment beaucoup au jeu. Peux-tu m'expliquer la raison d'être de ce parti pris-là?
Ça a rapport un peu avec la première question que tu m'as posée parce que c'est ça, j'ai un parcours un peu différent peut-être que des fans communs là, qui découvrent les films puis qui un peu qui s'intéressent à l'univers. Là. Le parcours un peu classique, si on veut, des fans. Fait que j'ai voulu justement intégrer de mon jeu, de ma subjectivité là-dedans, parce que mon parcours est très différent. Mon approche est différente puis je trouvais que cette approche-là, mon approche particulière, pas qu'elle était spéciale, mais je voulais dire qu'elle n'est pas très commune, fait que je voulais pas non plus généraliser par rapport à ça. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça important de parler de mon expérience personnelle, puis aussi interpeller les gens par rapport à cette expérience-là, parce qu'ils n'en ont peut-être pas eu la même, ils ont peut-être une expérience très différente, puis ça met comme un espèce de point de comparaison, de faire comme « Ah, ben elle a découvert Alien comme ça, moi c'est très différent, ou elle interprète comme ça, moi c'est différent, puis après on peut avoir une discussion, puis je trouve ça quand même, je trouve ça important de pouvoir confronter ces différents parcours de lecture-là. Donc voilà, donc, c'est mon choix. »
Tu as quand même un peu évité une partie de la réponse à ma première question qui était « Qu'est-ce qui t'a attiré autant que ça vers Alien, au-delà de la théorie? » Je suis sûr qu'il y a quand même des aspects thématiques qui ne sont pas juste purement cérébraux qui t'ont intéressé dans Alien. Ça, j'espère pour toi en tout cas, sinon ça fait un long travail, une longue recherche à réaliser. Là, mais ouais.
Je pense que c'est la même fascination aussi que beaucoup de gens ont par rapport à Alien. Moi, c'était le xénomorphe, là, la créature, l'extraterrestre, qui je pense, en général, c'est une des créatures d'horreur, sans aller dans juste extraterrestre, mais une des créatures d'horreur les plus inquiétantes qui a été créée. Puis c'est très Lovecraftien aussi, là, d'espèce de créature avec sans réellement de raison d'être, qui veut juste tout détruire sur son passage. Puis c'est cette espèce, justement, de justement, la créature elle-même, c'est ça qui m'a happé dans la franchise. Puis à partir de là, si on veut essayer de découvrir un peu plus. Donc, c'est comme un peu le parcours classique qui rentre à ce moment-là. On écoute tous les films. Je voulais jouer au jeu Alien Isolation, dont je parle aussi dans mon livre. Donc, c'est comme un peu graduellement, je me suis confrontée à cette créature-là. Puis on dirait qu'on veut tout le temps essayer de rechercher le même contact, là, la même expérience qu'on a. Surtout dans le premier film qui est une espèce de... On la voit jamais, tout le temps cachée. Elle sort de partout. C'est des jumpscares, mais c'est pas... Ça feel pas cheap là, comme jumpscare.
Non, vraiment si pas. Là, c'est comme un chef-d'œuvre de mise en scène pour moi, là, le premier film de Alien. Je continue... À chaque fois que je le vois, je suis étonné par à quel point c'est un film qui est bien... Mais en fait, je devrais plus être surpris parce que à chaque fois que je le vois, je me dis que ça va être excellent, mais à chaque fois, je suis surpris par le degré de sophistication de la mise en scène dans ce film-là. Ton introduction le dit d'emblée, on a beaucoup parlé de cette franchise-là, au point qu'on peut se demander ce qui reste à dire dessus aujourd'hui. J'aimerais que tu nous expliques, en fait, sous quel angle ton livre s'intéresse à Alien plus spécifiquement, puis en quoi cette approche-là, selon toi, se distingue de ce qu'on a pu lire ou dire jusqu'à maintenant sur cette franchise-là.
Oui, la plupart de la littérature, si je peux me permettre un anglicisme, là, des textes qui ont été écrits ou des réflexions qui ont été écrites sur Alien, s'intéresse beaucoup à interpréter un peu politiquement ou idéologiquement ce qui se passe dans le film. Puis c'est toutes des interprétations plus intéressantes les unes que les autres. Initialement, moi, c'est ce que je voulais faire avec Alien. Mon premier instinct, c'était d'essayer de décortiquer tous ces enjeux-là qui sont dans le film, qui sont tous les enjeux sur qui ont rapport avec, par exemple, la compagnie, puis tous les enjeux marxistes qui émergent de ça, là. Donc les travailleurs versus la compagnie qui sont un peu, je pense juste au mot en anglais, là, mais « expendable », donc on veut se débarrasser de ça, toutes les questions sur la maternité avec Ripley, puis tous les enjeux, il y a beaucoup de textes féministes qui ont été écrits par rapport à cet angle-là sur la franchise, donc ça c'est ce qui avait été fait, puis justement, quand on fait un projet de recherche, on se met à lire, puis là, on voit que tout a déjà été fait, fait qu'il faut trouver un angle spécial. Puis, en parallèle de ça, je suis aussi une fan de Marvel, puis surtout de qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire avec le Marvel Cinematic Universe. Je trouve que c'est une opération assez ambitieuse, puis cet aspect-là m'a toujours fasciné de voir comment on peut créer quelque chose aussi gros, puis que les gens embarquent, qu'on finisse par aller écouter toutes les séries. Certains même vont acheter les comics, puis essayer d'embarquer dans un univers aussi complet. Comment on crée ça, puis comment on continue à garder l'intérêt des gens encore pour justement les attirer dans notre univers. Puis à force de lire sur Alien, j'ai réalisé qu'il y avait ça aussi qui se passait, dans un niveau différent aussi. Donc, c'est un peu comme une espèce de rencontre de deux fascinations, celle sur Alien, puis celle sur comment on crée des œuvres populaires comme ça, aussi massives, aussi géantes, puis que ça reste intéressant à différents degrés, relativement. Comment on vient pour engager un auditoire, comment on les attire à nous. Donc, c'est comme un. Ça, c'est l'angle que j'ai décidé d'utiliser. C'est. Je voulais voir. Étudier ce qu'on appelle justement des franchises transmédiatiques, là, donc les franchises qui s'étendent sur plusieurs médias, qui commencent soit au cinéma. Alien, ça commence au cinéma, puis ça s'en va dans les jeux vidéo, les bandes dessinées et compagnie. Donc, je voulais essayer de l'étudier de ce point de vue-là, du point de vue de la création des histoires et de la réception de l'auditoire. Donc, comment on crée, puis comment on lit, ou on écoute, ou on regarde. Donc, ça, c'est l'angle que j'avais décidé de prendre, qui est l'angle de l'article en question de Karen Netto. Donc, c'est comme un petit article de 20 pages où, justement, elle suggère que le xénomorphe, ça serait une espèce de métaphore dans l'histoire de la manière dont on crée et on adapte des histoires dans une franchise transmédiatique. Donc, pour elle, le xénomorphe, par son mécanisme de reproduction, c'est-à-dire il prend un hôte, soit un humain ou des fois des animaux, il met son œuf dedans. Éventuellement, l'œuf se transforme et s'adapte avec une partie des caractéristiques de son hôte. Donc, on voit avec les humains, c'est des bipèdes, puis dans Alien 3, on voit éventuellement que ça devient un quadrupède parce qu'il infecte un animal quadrupède, et ainsi de suite. Dans les bandes dessinées, ça
prend à peu près toutes les formes qu'on peut imaginer. C'est un peu absurde, là.
Puis, donc c'est ça. Donc, la créature s'approprie les caractéristiques de son hôte, puis devient nouvelle, et ainsi de suite. Puis, pour elle, les franchises transmédiatiques, pour pouvoir survivre, font un peu la même chose. Donc, dans un principe un peu darwiniste, là, donc, s'adaptent à leur environnement en s'appropriant les caractéristiques de leur hôte. Donc, Alien au cinéma a certaines caractéristiques qui est propre au cinéma. Puis quand on s'en va à Alien en bande dessinée, ben là, on a un autre type de caractéristiques, donc qui s'approprient les caractéristiques du média, de la bande dessinée. Et ainsi de suite, dans les romans, puis dans les jeux vidéo, il y a comme toute une série de caractéristiques qu'on peut voir de la manière dont la créature s'adapte à son média. Puis mon livre, c'est un peu ça, là, je fais un petit panorama. Donc c'est ça, mon ambition, c'était un peu de mettre cette théorie-là à l'épreuve en regardant dans le détail des œuvres, justement, qui font ça puis qui permettent à la franchise de survivre jusqu'à aujourd'hui.
Il y a un concept que tu utilises dans ton essai, puis je pense que ça vaut la peine de le définir parce qu'il me semble que c'est central dans ton analyse de la franchise, puis aussi ça m'a permis de comprendre certaines choses. Je trouve que c'est celui de médiagénie. Pourrais-tu nous expliquer un peu d'où ça vient, ce concept-là, puis de quoi il s'agit?
J'ai rencontré le concept de médiagénie dans un article de Philippe Marion qui s'appelle « Narratologie médiatique et médiagénie des récits ». Donc, c'est un article de 1997, puis le concept est comme défini comme une espèce de potentialité à ce moment-là. Il n'y a pas vraiment d'application pratique. Pour lui, la médiagénie, c'est la capacité d'un récit à s'adapter à son média. Donc, la manière dont le récit s'approprie encore une fois les caractéristiques d'un média, puis de voir à quel point ces deux-là ils sont capables de fusionner d'une manière cohérente. Il oppose aussi au concept de transmédiagénie, qui est la capacité d'un récit à s'adapter à plusieurs médias, donc de pouvoir être réadapté facilement dans d'autres types de médias. Avec la franchise Alien, puis un peu le mécanisme de reproduction dont je parle depuis tantôt, on a les deux qui se produisent dans la même franchise parce que chaque œuvre doit bien s'adapter à son médium, doit bien justement s'approprier les caractéristiques, mais le macro-récit de la franchise, celui plus général des histoires d'Alien, doit être capable de pouvoir s'adapter à tous ces médiums-là. Donc, il y a un peu deux niveaux, là, le niveau micro, détail, une histoire spécifique, puis le niveau macro, celle d'un univers qu'on essaie de former, justement, de façon cohérente, relativement cohérente.
Ouais, c'est drôle que tu dises ça parce que tu parlais du Marvel Cinematic Universe un peu plus tôt. Puis moi, quand j'ai en grandissant mon contact avec Alien, oui, il y avait déjà les bandes dessinées de Dark Horse Comics puis tout ça, mais ça avait un peu plus l'air du Far West narratif quand même. Là, la franchise Alien, ça avait, on dirait qu'à chaque occasion, il y avait des retcons un peu bizarres. Puis c'était pas non plus comme si c'était l'affaire la plus populaire. Puis je pense aussi qu'à cette époque-là, les gens se penchaient un peu moins, s'inquiétaient. Ou s'en faisait un peu moins avec la réaction puis la lecture un peu trop poussée de certains fans. Est-ce que pour toi, Alien, c'est une série qui, dans son espèce d'aspect transmédiatique, réussit à créer quelque chose de cohérent ou c'est un peu le bordel?
En fait, ce qui est intéressant à force de regarder la franchise comme dans son ensemble, parce que c'est ça que j'ai fait. Mm-hmm. C'est vraiment un long processus. Là. Je ne le conseille pas à personne, mais moi, j'ai comme eu un peu la... d'obsession à vouloir comprendre tout ça, c'est que quand on regarde l'ensemble de la franchise, on voit vraiment qu'il y a deux moments, il y a deux périodes spécifiques. Puis c'est super intéressant à observer d'un point de vue, justement, si on veut comprendre comment on écrit des récits transmédiatiques. Parce que, en fait, de 1979 à 1999, il y a eu comme la façon un peu classique, si on veut, entre guillemets, là, de faire une franchise transmédiatique, c'est-à-dire c'est pas nécessairement quelque chose de programmé, c'est quelque chose qui arrive parce qu'on essaie de trouver des nouveaux marchés pour faire de l'argent. Fait que c'est ça. À partir le premier film, il n'y a pas eu grand-chose, il y a eu des novélisations, des adaptations en jeux vidéo qui faisaient juste être des espèces de produits dérivés. À partir du deuxième film, Aliens, de James Cameron en 1986, là, on voit qu'il y a Dark Horse Comics qui prend l'histoire de des personnages du film puis qui décide de faire une série. Donc, on poursuit leur histoire. Ça, c'est vraiment comme une des premières opérations. C'est quand même une bonne série, en plus. Je conseille aux gens d'aller regarder ça. C'est super bizarre. Puis, donc, ça, c'est comme une des premières façons d'étirer un peu l'histoire de manière cohérente. Puis là, quand Alien 3 arrive, ça brise toute l'histoire parce que les deux personnages en question, ben, ils meurent au début du film. Donc, ouais. On retconne, on réécrit. Ils ont changé les noms, là. C'était pas...
Mais c'est quand même une réécriture. Tout le bagage émotionnel que tu pouvais attacher à ces personnages-là disparaît tout d'un coup, là.
En plus, j'ai réécouté hier soir, je sais pas pourquoi j'avais envie d'écouter ça, Aliens. Puis, le deuxième. Puis... Et j'ai revu un peu des motifs qu'il y a dans la bande dessinée qui sont repris justement du film, tout le motif du rêve, là, parce qu'il y a toute Newt qui veut pas dormir parce qu'elle fait des cauchemars, il y a Ripley qui fait des cauchemars, puis ce motif-là, il est repris dans la série de façon, c'est au premier plan.
Dans la bande dessinée, oui.
Dans la bande dessinée, c'est ça, il y a la moitié de la bande dessinée qui est dans un rêve, on sait plus à un moment donné s'il rêve ou si c'est la réalité, fait que c'était très cohérent dans ce temps-là, puis ils ont tous décidé de réécrire parce que...
Oui, bien, on voit que le cinéma... Le troisième a une envie de dynamiter un peu tout, j'ai l'impression, dans son rapport à la franchise. Là. Je pense que c'est un film qui voulait être le dernier puis qui voulait aussi ne pas avoir aucune pitié avec son public. Là.
Donc, ça, c'est la première phase. Puis dans la deuxième phase, qui commence en 2009, parce que de 1999 à 2009, il y a un hiatus. Là, donc, on fait des jeux de mobile, des jeux d'arcade, puis c'est pas mal ça. Il y a le crossover Alien vs Predator qui s'en vient au cinéma, mais ça n'a pas les répercussions qu'on voulait que ça allait, nécessairement. Puis en 2009, là, on repart un peu la franchise, mais inspiré de toutes ces autres franchises qui avaient commencé à faire des projets transmédiatiques organisés comme le Marvel Cinematic Universe, comme la franchise Assassin's Creed qui embarque un peu tout en même temps. Donc à ce moment-là, on essaie de repartir la franchise. C'est comme un petit faux départ aussi avec Prometheus qui a floppé. On essaie de se réajuster, mais à partir de Alien Isolation, on voit surtout dans les comics qu'il y a une volonté de faire des événements de publication. Donc, on a des événements spéciaux qu'on appelle comme les Fire and Stone ou, et compagnie. Là. Donc, c'est des récits avec Predator aussi. Donc, c'est des récits, il y a quatre bandes dessinées, quatre séries de bandes dessinées qui sortent en même temps, puis qui ont des liens un peu lointains, parfois très rapprochés ensemble.
Comme Marvel fait de temps en temps pour forcer les gens à acheter cinq séries en même temps.
Exactement. Puis, il y a tous les romans ensuite qui sortent, qui sont vraiment très bons, d'ailleurs. Je conseille, si vous êtes fan d'Alien, pour vrai, allez, puis vous n'avez pas lu les romans, allez regarder ça, là, c'est vraiment excellent. Donc, c'est ça. Puis là, on voit un peu le deuxième mouvement qui s'inspire justement de toutes ces franchises-là qui sont un peu plus organisées. Puis là, récemment, il y a eu Disney qui a fait son annonce monstre de toutes les choses qu'il voulait développer. Puis on voit que les comics vont passer chez Marvel parce que Disney a acheté Fox. Et aussi, ils ont annoncé une série télé de Alien sur FX qui devrait sortir éventuellement. Puis on ne sait pas grand-chose, outre que ça s'en vient, ça va se passer sur la Terre. Et donc puis, là, je me disais, qu'ils vont adapter la série en comics de Dark Horse, mais ça marche.
C'est impossible à dire. Mais avec Disney, par contre, j'imagine que d'ici 20 ans, il va y avoir un crossover avec Star Wars. Puis 3-4, ça a l'air d'être le free-for-all de ce côté-là, là, sur le plan industriel depuis environ 2-3 ans. Ouais. Mais bon.
Oui.
Mais donc, tu parles de jeux vidéo, tu parles de comic book, tu parles de romans. C'est tous des trucs dont on n'a pas l'habitude de traiter quand on parle des films d'Alien. On a tendance à un peu les mettre de côté. Qu'est-ce que tu penses qu'un public va chercher quand il décide de se plonger comme ça aussi intensément que ça dans un univers de fiction?
Mais je pense que ce qu'on va chercher, ça reste assez personnel en général. En général aussi, on essaie de retrouver, pour les gens qui ont vraiment envie de s'avertir comme ça, on essaie de retrouver une expérience ou un univers, en tout cas pour moi c'est ça, là, d'essayer de revivre un univers ou de refaire l'expérience de cet univers-là d'une manière indirecte ou partiel, là, parce que c'est sûr que regarder un film, c'est pas lire un comic book. C'est très différent. Regarder un film, c'est pas jouer à un jeu vidéo aussi, parce que le jeu, t'as plus d'heures que tu t'investis dedans. Après les années 2000, on a des jeux en first-person shooter, donc c'est vraiment l'idée d'immersion dans un univers très spatial aussi, là, donc on explore la spatialité d'un jeu. Donc c'est des niveaux d'investissement très différents, aussi ça dépend des intérêts, mais ce que je trouvais intéressant par rapport à, justement, si on essaie de retrouver une expérience avec cet univers-là, c'est l'année dernière, au début de l'année 2020 a été longue, au début de l'année, ils ont sorti le Alien RPG, là, donc le jeu de rôle de Alien, qui est un jeu de rôle sur table, donc il n'y a pas de plateau.
Dungeon and Dragon, là, oui.
Oui, c'est ça, exactement. Puis, en feuilletant un peu, il y a deux types d'aventures qu'on peut faire dans ce jeu de rôle-là. Il y a ce qu'on appelle des campaigns, donc c'est des jeux un peu à la Dungeon and Dragon. On fait notre histoire, puis on utilise le matériel de ça. Donc, il y a les planètes, il y a toutes les maps, il y a toutes ces affaires-là. Et il y a aussi des courtes histoires qu'on peut faire qui appellent des cinematic plays. Donc, c'est des moments du canon de Alien qu'on peut rejouer. On peut reprendre des personnages qui existent déjà, puis on les incarne, puis on vit l'aventure, on refait l'aventure avec eux. Fait que ça, je trouvais ça très intéressant parce que c'est exactement ça, c'est revivre une expérience dans un médium qui est complètement à l'extrême du cinéma.
Et puis, quand même, tu consacres une bonne partie de ton essai au film de 1979 de Ridley Scott. Puis quand tu dis ça, recréer des choses, j'ai l'impression que c'est un peu moi, en tout cas, quand je vais voir un Alien, c'est un peu cette expérience-là que j'essaye de reproduire. C'est l'émerveillement de ce film-là que je vais chercher. J'imagine que pour toi, dans le cadre d'un essai sur les mutations d'une franchise, le film initial, il occupe aussi une place particulière dans la mesure où ce qu'il représente, c'est une sorte de maître étalon par lequel on peut comparer tout le reste, voir comment ça se transforme.
Ben oui, c'est ça. Parce que c'est ça, mon objectif, c'était d'observer des mutations. Ça prend une base de comparaison. Puis ce qui nous vient en tête en premier, c'est justement le film de 1979. Puis dans les deux moments, donc je parlais tantôt, on voit que c'est pas ce film-là qui a influencé beaucoup le premier moment. C'est plus celui-là qui a influencé le deuxième moment, parce qu'on essaie de faire retour depuis 2009 à tout cet imaginaire-là très alien, science-fiction, horreur, surtout Covenant. Ça voulait vraiment essayer de faire un Star Wars épisode 7 là, avec
Alien. Oui, reprendre essentiellement le film dans toutes ses... Oui, exactement.
Ouais, c'est ça, on reprend exactement la même trame narrative, les mêmes archétypes de personnages, la même, quasiment le même poster aussi promotionnel, la même ouverture, la même musique. C'est un peu copié, là, mais ça devient un peu stérile à ce moment-là parce qu'il n'y a plus de nouveauté, on fait juste la même chose. Donc, c'est ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est mon élan initial, c'est de dire ah, c'est ça qui va déterminer tout le reste. Alors qu'on se rend compte que c'est un peu. Alien, c'est un peu deux franchises ennemies en une, si on veut, parce qu'il y a toute la franchise qui s'inspire de Alien 1979. Puis il y a grosse partie de la franchise, surtout dans les comics de Dark Horse, qui s'inspire plutôt du deuxième film, de Aliens. Puis on voit aussi la dénomination dans les titres là, est assez explicite. Là. On voit que tout ce qui s'inspire d'Aliens s'appelle Aliens 2. Blablabla, ou Alien Covenant.
Ouais, s'il y a un S, il risque d'y avoir plus de guns dans un truc d'Alien. C'est ça que tu es en train de me dire.
C'est exactement ça. Mais c'est pour ça que Alien Isolation puis Aliens Colonial Marines, les deux jeux, un qui est sorti en 2012, 13 et un en 2014, sont super différents, alors que ça se veut dans la même franchise. Mais il y en a un que c'est un jeu de justement avec des guns, puis Colonial Marines, c'est dans le titre aussi. Puis l'autre, c'est un jeu de survival horror avec pas beaucoup de guns, t'as un lance-flamme, puis si tu vois un xénomorphe, ben... cache-toi ou essaie de survivre parce que t'en as pas pour longtemps.
Ouais, mais c'est vrai qu'en fait, puis c'est drôle parce que moi, je suis un petit peu plus vieux, donc en grandissant, je me rappelle que c'est mes amis qui m'ont introduit à Alien, puis dans le fond, l'idée qui me vendait de cette franchise-là, c'était beaucoup plus le film d'action qu'est le film de James Cameron. Tu sais, mes amis de 6-7 ans en 1992, ce qui les faisait triper, c'était pas le film de Ridley Scott, c'était le film de James Cameron. Puis en fait, c'est très drôle. C'est vrai qu'on peut littéralement parler de deux franchises à l'intérieur d'une franchise. Est-ce que d'après toi, la franchise Alien / Aliens gère bien cette espèce de schizophrénie-là?
J'ai l'impression qu'il la gère pas, en fait. C'est un ou l'autre. Il y a pas vraiment de... j'ai pas observé de volonté de faire un peu une réconciliation entre les deux. La seule œuvre, dans le fond, qui est à la limite entre les deux, c'est un roman que j'analyse dans mon livre, qui est Alien No Exit. Puis, dépendamment de l'édition que tu as, des fois il est écrit au singulier, des fois il est écrit au pluriel, là, Alien. Donc, je trouve que ça montre beaucoup ça. Puis, il y a vraiment un bel équilibre entre l'horreur, tout justement l'expérience très alien, très angoissante et. Il y a des Colonial Marines, il y a des guns, il y a un peu de tout ça. C'est un excellent livre de Brian Evanson que je suggère à tout le monde qui tripe sur la franchise. C'est très, très bon.
Quand tu parles du Nostromo, je voudrais revenir quand même au premier film, parce que c'est un podcast de cinéma et que je me sens obligé de toujours parler de cinéma, mais aussi parce que j'aime tellement ce film-là, mais aussi parce que je trouve intéressante ta description. Quand tu parles du Nostromo, de l'introduction du premier film, de ta description d'un environnement qu'on peut explorer, ça renvoie beaucoup à un rapport à l'espace qu'on a dans un jeu vidéo. On dirait que tu veux naviguer dans un espace. Puis c'est vrai que la caméra, la manière dont la caméra se déplace, la manière dont l'espace est mis en scène, tout ça nous amène à une espèce de rapport très tangible, très concret à l'espace. Est-ce que pour toi, Alien, c'est un précurseur du jeu vidéo par sa forme, ou crois-tu plutôt que c'est parce que ton regard de spectatrice est influencé par une expérience de joueuse que tu as tendance à parler d'images de cinéma, comme on parlerait un peu d'un jeu vidéo?
Moi, je pense que c'est plus le deuxième, parce que c'est sûr que avoir vu probablement Alien en 1979, j'aurais jamais pu faire la comparaison parce que l'expérience de jeu telle que je la décris, par exemple, n'existait pas. Il n'y avait pas de first-person shooter. en 1979 aussi, il y en avait pas beaucoup. ouais, c'est ça. J'ai comme souvenir d'un jeu dans mes cours de en jeu vidéo qui était avant ça, mais ça avait rien à voir avec Alien ou avec ce type d'expérience-là, justement, où ce qu'on peut sentir qu'on peut explorer un espace comme on explore le Nostromo. D'ailleurs, on peut explorer le Nostromo dans un des DLC de Alien Isolation. Donc, on nous offre cette occasion-là. Mais nécessairement, c'est sûr que la manière dont moi je suis entrée dans la franchise influence 100% la manière dont j'ai interprété ces images-là. Puis, je pense pas que quelqu'un qui veut entrer dans la franchise aujourd'hui peut ignorer ce type d'image-là, à moins que je n'ai jamais joué à un jeu vidéo, mais moi, en tant que joueuse, c'est sûr que j'ai fait le parallèle très plus facilement peut-être qu'on l'aurait fait à l'époque, mais ça enlève pas justement la validité de l'interprétation. Au contraire, ça montre la complexité de revenir à un univers comme ça, puis de continuer à faire des œuvres dans cet univers-là, puis après, toujours revenir à Alien, comme tu le fais et comme je le fais souvent aussi, on voit toujours des nouvelles choses par rapport à ce qu'on a consommé par après. Donc, c'est cette complexité-là d'expérience qui fait que explorer un univers, une franchise, dans tous ses aspects, dans ses aspects les plus reculés souvent aussi, ça enrichit beaucoup nos expériences des œuvres initiales où ça les transforme ou des fois on refuse, comme avec Prometheus et Covenant. Moi, je refuse le fait que ce soit David qui a fait un xénomorphe dans son laboratoire, là. Je suis pas d'accord, puis c'est pas dans mon headcanon.
Ah ouais, c'est ça, t'as quand même t'as ton propre canon à toi en ce moment, c'est ça que tu me dis malgré tout.
Mais c'est ça, c'est une expérience de fan aussi de dire que, ah, mais il me semble que l'histoire, j'ai l'impression qu'elle s'est appauvrie avec ce type
Oui,
de
d'ajout-là.
révélation-là, là, c'est ça. Puis ensuite, on peut les travailler, on peut les réécrire dans notre tête, ou il y en a qui font des fanfictions ou qui font des fanfilms différents avec d'autres types de editing, par exemple, de ces films-là. Donc, on retravaille le montage pour en faire des nouvelles œuvres complètement différentes, ce qui est super intéressant comme opération aussi, de voir comment on peut reprendre la matière puis en recréer quelque chose de nouveau ou enlever ce qu'on n'aime pas. Ça fait pas que le premier film n'existe plus, mais ça fait un nouveau film qu'on a créé pour nous aussi, hein.
C'est intéressant ce que tu dis, ça renvoie un peu à... Moi, je me rends compte que je suis de plus en plus... Quand j'étais jeune, j'avais plus tendance à être fan des choses que je consommais. Je veux dire, j'étais un fan fini de Star Wars quand j'étais kid. J'ai lu des romans de Star Wars comme ça avait pas de bon sens. Puis j'ai même vécu le grand drame quand ils ont décidé que tous ces romans-là seraient plus canons, puis que nanana, puis mon univers imaginaire s'est effondré. Puis peut-être qu'après cette ultime trahison-là, j'ai plus jamais eu envie de m'investir autant que ça dans un univers de fiction de la même manière, en tout cas. Mais c'est clair que ton approche à toi vient de la culture du fan, qui n'est pas nécessairement toujours... J'ai l'impression qu'il y a comme un conflit entre la culture des fans puis le monde de la critique. À proprement parler. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu vois comme deux dimensions un peu irréconciliables ou si pour toi, il y a une possibilité d'être à la fois fan et critique.
Je pense pas que c'est nécessairement irréconciliable. Je pense que c'est juste deux manières complètement différentes d'évaluer ce qu'on consomme. Quand on a une approche de fan, c'est une approche justement très, très subjective, très axée sur l'expérience personnelle, axée sur qu'est-ce qu'on aimerait voir, qu'est-ce qu'on n'aimerait pas voir. Puis il y a comme une espèce de regard plus de création qui se fait quand on est fan de quelque chose, on regarde quelque chose, puis on s'approprie qu'est-ce qu'on veut, on peut laisser de côté, puis on peut en discuter avec les autres personnes qui sont fans comme nous aussi, nos amis, peu importe. Puis quand on a un regard de critique, c'est peut-être un regard différent au sens où on essaie d'évaluer les qualités esthétiques d'une œuvre. Mais je pense pas qu'on peut nécessairement... C'est nécessairement irréconciliable au sens où c'est juste deux postures différentes. On met un chapeau, on en met un autre. On peut apprécier les qualités esthétiques d'un film tout en mettant notre chapeau de fan après et dire, ouais, mais moi, là, l'histoire de David avec les néomorphes, là, je suis pas fan. Ou le fait que Ridley Scott dise qu'il conçoit dans un futur proche que la franchise Alien pourrait se passer de son xénomorphe. Je veux dire, Je peux dire personnellement que je trouve que c'est pas une bonne idée en tant que fan, parce qu'il me semble que c'est ça qui fait l'essence de la franchise. Mais en même temps, je peux juger des qualités esthétiques de Alien Covenant, puis de faire une critique, puis de voir aussi l'impact de ce récit-là sur le reste de la franchise, au sens où, là, maintenant qu'on a ces histoires-là, il faut réévaluer tout ce qu'on a avant. Puis des fois, il y a des incohérences, des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Puis ça, on peut les pointer sans être nécessairement faire comme « Non, mais il faut que tu changes ton histoire. » C'est juste de dire « Regarde, tu vois ici, il y a une incohérence. » Ça ne fonctionne pas ce que tu fais, Monsieur Scott.
On a parlé un peu du premier film. Ton livre parle de mutation. Tu peux-tu me dire de quelle manière, d'après toi, après, on a aussi un peu parlé d'Aliens, mais comment, d'après toi, des films comme Alien 3 ou même Alien Resurrection ont transformé la franchise?
Je pense que c'est un des aspects les plus intéressants de la franchise, c'est comment ces films-là, puis on en a parlé aussi avec toutes les opérations de Redcon, ces films-là ont vraiment des répercussions sur tout le reste des œuvres qui sont créées de Alien. Donc, il y a vraiment, on voit quand on observe un peu plus de façon générale la franchise, on voit qu'à chaque fois qu'il y a un film qui sort, il y a comme une espèce de boom dans la production d'œuvres dérivées. Mais il y a aussi le fait que chacun de ces films-là est réalisé par un réalisateur qui a sa vision créatrice très spécifique. J'aimais vraiment comment tu décrivais ça avec Alien 3, là. Il voulait comme dynamiter la franchise, mais c'est très important que ça reste dans une franchise parce que c'est ça qui la garde en vie, en fait. C'est ce qui amène les gens à trouver des solutions créatrices à des problèmes qui ont été créés au cinéma, par exemple. Sans Alien 3, on n'aurait pas eu Alien Résurrection, qui est un film super intéressant, à mon avis, à regarder, puis tous les nouveaux aspects, puis les nouveaux problèmes que Alien Résurrection amène ensuite avec le clonage, avec les hybrides, avec tout un phénomène où ce que il y a comme une amnésie collective par rapport à l'existence des aliens. Donc, c'est ça qui redonne un second souffle. À mon avis, il faut continuer à faire des films dans ce genre-là parce que c'est ça qui garde la franchise en vie. Si on essaie de faire toujours du même, de faire d'autres Alien Covenant, et éventuellement, ça va s'appauvrir, puis la franchise va un peu se retourner contre elle-même. J'ai mis mon chapeau de fan tantôt en disant que j'aimais pas l'idée de la création du néomorphe avec les androïdes et tout, mais peut-être que ce problème-là va amener justement des nouvelles œuvres ou des nouvelles idées qui vont être justement plus créatives parce que c'est un problème qu'on a créé. Maintenant, il faut essayer de faire des nouvelles histoires qui vont investir ce problème-là puis essayer de faire des choses un peu plus créatives puis moins redondantes.
J'utilise un peu le terme spectatrice par réflexe quand on a cette conversation-là, mais il me semble que c'est plus tout à fait adapté à la réalité que tu décris. On pourrait aussi parler de lectrice, de joueuse, mais au fond, ce que ton essai semble formuler comme hypothèse, c'est plutôt comme l'existence d'une créature composite qui devient la somme de toutes ces expériences-là. Comment les mutations d'une franchise, puis comment la mutation du phénomène de franchise transforme le public actuellement, d'après toi?
Je pense pas qu'aujourd'hui, c'est possible. En fait, c'est possible, mais je pense qu'aussi on est influencé par justement ces phénomènes de franchise-là. Pas seulement... On peut être fan d'Alien puis juste aller voir les films. Ça se fait très facilement, comme on peut être fan de Star Wars puis juste aller voir les films. C'est un phénomène qui se passe. Mais il y a ce que Henry Jenkins appelle la convergence médiatique, qui s'accompagne d'une espèce de modification dans nos pratiques de consommation qui appelle la culture de la convergence. Donc, dans la convergence médiatique, on a un espèce de phénomène où les médias interagissent de façon plus dynamique. Et ce que ça fait, on le voit par exemple avec la création des ordinateurs. Donc, on a des écrans qui peuvent jouer des jeux, nous projeter des films, où on peut regarder des vidéos maintenant sur Internet. Donc, il y a comme une espèce de convergence de tous ces médias-là. Puis, on est habitué d'avoir des objets autour de nous, des objets technologiques, qui nous permettent d'avoir une pluralité d'expériences médiatiques à la même place. Évidemment, ça change. Un écran d'ordinateur ne remplace pas un écran de cinéma. L'expérience est très différente, mais il y a quand même cette cette habitude-là de spectatorat ou d'auditorat qui commence à être transformée. Puis dans la culture de la convergence, selon Henry Jenkins, les récits, indépendamment des médias sur lesquels ils sont projetés, finissent par obtenir une cohérence dans nos habitudes de consommation, dans le cerveau des consommateurs, dans la manière dont on lit, on reçoit, on joue aux œuvres. Éventuellement, ce que ça fait, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui être seulement spectateur ou spectatrice. On a toutes ces autres images-là, soit de jeux vidéo, de vidéos YouTube, on regarde des gens jouer à des jeux sur l'ordinateur. Donc, il y a comme une espèce de toutes ces habitudes de consommation-là qui sont réunies dans une seule expérience, puis on ne peut plus vraiment détacher les unes des autres. Donc, en même temps que la franchise a ses mutations, temporellement, juste parce que, justement, il y a des évolutions technologiques comme ça, nos habitudes de consommation sont changées avec elles. Donc, ce n'est pas seulement dans les histoires, mais aussi dans les phénomènes technologiques qui les accompagnent. Puis qui leur donne forme aujourd'hui.
Sans vouloir paraître pessimiste, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on pourrait reprocher à cette espèce d'avalanche de contenu-là de venir parasiter l'œuvre originale ou puis aussi de gâcher l'aura d'une œuvre? T'sais, moi, je veux dire, je pense à Star Wars, pour y revenir, parce que je pense que personnellement, en tant que dans mon rapport de fan, ça reste la série que j'ai le plus consommée dans cette optique-là. Puis tu sais, de voir des séries télé de Star Wars, de voir tout ça, finalement, ça fait qu'il y a comme la magie d'un nouveau Star Wars au cinéma, elle n'existe plus. Ben, il y a aussi l'idée que la narration peut venir bousculer quelque chose qu'on aimait puis gâcher quelque chose, tu en as un peu parlé, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dangereux dans cette espèce de marque de commerce-là qui devient toute puissante puis qui devient, en fait, c'est comme un monstre, un peu pour poursuivre avec ta métaphore de l'Alien, je veux dire, l'Alien finit par bouffer tout, là.
Mm-hmm. Mais c'est ça, s'il n'y a plus d'hôtes, on ne peut plus se reproduire. Mais c'est super intéressant que tu parles de ça, parce que à force de faire mes recherches, à un moment donné, je suis comme, on en vient à imaginer son film idéal d'Alien. Puis pendant que je faisais mes recherches, il y avait aussi à un moment donné, il y avait eu une annonce à un moment donné que Neil Blomkamp allait peut-être réaliser un film d'Alien, puis tout le monde était bien content. Mais c'est ça, je me disais, un film idéal de Alien qui a la même, justement, la même portée expérientielle que le film de 1979, ça serait un film qui serait pas commercialisé comme tel. Quelque chose, on sort un film avec une histoire quelconque, puis éventuellement, on découvre que ça se situe dans l'univers, puis il y a cette surprise-là qui peut émerger. Il me semble que ça serait vraiment, vraiment cool d'avoir ça au cinéma. Mais c'est ça, malheureusement, les grosses compagnies veulent miser sur pour s'assurer un revenu, s'assurer que, justement, qu'on va faire de l'argent avec notre nouvelle, avec la franchise qu'on a mis tant d'années à construire. Donc, il y a comme une espèce d'impossibilité ici, à moins que ce soit des films, des fan-films ou peu importe, quelque chose d'indépendant qui sorte. Je pense pas que ce serait possible, mais ce serait ô combien génial d'avoir quelque chose comme ça. Donc oui, à un moment donné, la marque de commerce, on finit par se tirer dans le pied avec, parce qu'ils nous annoncent un an à l'avance qu'est-ce qu'on va voir. En fait, ils nous annoncent la semaine dernière qu'est-ce qu'on va voir pour les 10 prochaines années au cinéma, puis il n'y a plus d'excitation.
C'est drôle parce que ce que tu décris comme étant ton film de rêve d'Alien, c'est un peu Prometheus en même temps. Un film qu'on comprend pas trop. Mais ouais.
Oui, c'est ça. C'est Prometheus comme je l'ai vécu, mais c'est peut-être pour ça aussi que c'est mon film idéal, parce que c'est la première chose, mon premier vrai contact avec la franchise, mais qui était pas super bon. Fait que je vois ça comme qu'ils le refassent, mais
correctement.
Mieux.
Puis peut-être juste pour ceux qui ont vu les films d'Alien, mais qui ont jamais plongé dans d'autres choses, que ce soit des jeux vidéo, des bandes dessinées, des romans, étant donné que tu as fait tout le travail de recherche, que tu t'es tapé, j'imagine, le meilleur comme le pire, est-ce que tu peux recommander deux ou trois trucs puis dire aux gens de s'en tenir à ça au lieu de juste se claquer la totalité de ce qui s'est fait dans le monde d'Alien puis d'avoir une overdose?
Oui, c'est ça. Mais à la fin de mon livre, j'ai quelques suggestions de liste de lecture, là, si on veut, avec des thèmes. Donc, vous pouvez aller voir ça si vous voulez. Mais pour mes best-of, là, si on veut, évidemment, dans les jeux vidéo, Alien Isolation, si vous vous aimez les jeux de survival horror, c'est un must, là, si vous n'y avez pas déjà joué. C'est vraiment très stressant. Là. J'ai pas capable de jouer plus que 3 heures de la shot sans faire des cauchemars après. Donc, c'est très puissant comme expérience. Dans les romans, j'en ai nommé quelques-uns. J'ai nommé le Alien No Exit, qui est génial, tout simplement. Puis, il y a 3 romans qui sont sortis en 2014. Il y a Alien Out of the Shadows de Tim Le Bon, qui fait un espèce d'histoire non-canon avec Ripley à l'intérieur. Donc, ça se passe après le film de Alien, quand Ripley quitte le vaisseau avec Jonesy, le chat, dans le Narcissus. Elle se ramasse sur une planète. Il y a comme une espèce d'histoire qui se passe là. Puis à la fin, il y a comme une twist facile de... Ah, Ripley, on va te donner de l'amnésie pour pas que ton trauma détruise ta santé mentale. Puis après, elle repart vers Aliens, éventuellement. Donc, c'est comme une histoire qui se situe entre les deux. Il y a Alien Sea of Sorrow de James A. Moore, qui est une autre histoire qui se passe sur la même planète, mais plus tard, où on entend qu'est-ce que les xénomorphes pensent. C'est super étrange, mais c'est vraiment bien fait. Puis Alien River of Pain de Christopher Golden, qui est une réécriture de qu'est-ce qui s'est passé dans la colonie Hadley's Hope, donc la colonie qu'on voit dans Aliens. Donc, c'est des moments juste avant l'infestation, puis tout le récit durant l'infestation. Donc, c'est une espèce de décentrement de perspective de cette histoire-là. Mais ces 3 romans-là, très bien faits. Puis, dans les comics, là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais la première série dont on a parlé tantôt, qui est excellente, vous pouvez les trouver dans les omnibus. C'est vraiment... je pense que ça vaut la peine d'aller y jeter un coup d'œil. Et un de mes comics préférés, c'est le premier comics de Alien vs. Predator qui est sorti en 1989, qui est vraiment très bon.
Ben, écoute, merci pour ces suggestions-là, Megan. Ton livre s'intitule « Xenomorph, Alien ou les mutations d'une franchise ». Il a été publié aux éditions de ta mère. C'est disponible en librairie dès maintenant. Alors, tous ceux et celles qui ont été interpellés par notre discussion, je les invite à aller se le procurer. De notre côté, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se revoit dans quelques semaines pour un nouvel épisode du Balado de 24 images. Merci beaucoup et à la prochaine.